Bienvenue à Question d'aujourd'hui, émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. Au micro, Renaud Grégoire, bienvenue à cette nouvelle émission. Nous avons la chance d'avoir avec nous Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay. Bienvenue, Monseigneur.
Merci beaucoup.
Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay est évêque de Hearst-Moosonee, c'est en Ontario. Pour donner quelques notes de biographie pour mieux le connaître, il a obtenu son diplôme en théologie de l'Université Laval de Québec et il a fait son noviciat chez les Oblats de Marie Immaculée. Vous avez fait, Monseigneur, votre première profession en 1995 à Vanier et vous avez fait des études aussi à Ottawa, à l'Université Saint-Paul, où vous avez obtenu un diplôme en sciences missionnaires. Vous avez été ordonné prêtre en 1999 et vous avez fait l'année précédente, quelques mois précédents, votre profession perpétuelle chez les Oblats de Marie Immaculée. Vous avez été 3 ans vicaire de la paroisse Chibougamau et Chappais au Québec et vous avez aussi repris des études pour obtenir en 2008 un doctorat en théologie pratique de l'Université Laval. Et puis, vous avez aussi travaillé auprès des jeunes à Québec pendant plusieurs années, de 2003 à 2010, et vous avez fondé avec quelques jeunes le groupe Le Tisonnier de Québec. Vous avez aussi assumé des fonctions de formateur au noviciat des Oblats. Vous avez été de 2010 à 2016 curé du Sacré-Cœur à Ottawa, et vous avez aussi occupé pendant 2 ans qui ont suivi, le poste de recteur du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Vous avez aussi été évêque auxiliaire de Trois-Rivières de 2018 à 2022 et vous êtes maintenant évêque de Hearst-Moosonee. Monseigneur, bienvenue. Nous allons parler ensemble de l'âge séculier et les défis pour l'Église. Mais simplement quelques minutes avant qu'on puisse aborder ce grand sujet qui vous passionne, parlez-nous de votre diocèse. Vous êtes en Ontario.
Oui, merci beaucoup. Puis salutations à tous vos auditeurs. C'est un plaisir pour moi de me retrouver avec vous. Merci de me donner l'occasion de vous rencontrer. Alors, je suis évêque d'un immense diocèse. C'est le 4e plus gros au Canada. C'est un diocèse d'une superficie énorme. Je pense que je suis autour de 5 à 600 000 kilomètres carrés. Donc, c'est presque la moitié de l'Ontario. C'est tout le nord de l'Ontario et c'est une fusion de 2 diocèses, Hearst et Moosonee. Peut-être que vos auditeurs ne le savent pas, mais en Ontario, il y a quand même une très grande communauté francophone, des franco-ontariens, autour de 500 000 franco-ontariens, beaucoup dans la région d'Ottawa, il y en a à Toronto, mais il y en a énormément dans le nord de l'Ontario aussi. Donc à Sudbury et Timmins, qui sont dans 2 diocèses voisins. Mais dans mon diocèse, il y a tous des petits villages et petites villes comme Cochrane, Kapuskasing, Hearst, Chapleau, Long-Lac, toutes des communautés francophones qui sont établies là il y a près de 100 ans. Alors, c'était un projet de colonisation qu'il y avait à cette période-là, un projet de colonisation rurale dans le nord de l'Ontario. À l'expérience, on a découvert que les terres étaient bonnes, mais l'hiver est long. Alors, c'était peut-être pas l'idéal pour l'agriculture. C'est plutôt l'industrie du bois qui a pris le dessus. Ça, c'était l'ancien diocèse de Hearst qui suit l'autoroute 11. Mais l'ancien diocèse de Moosonee, alors il a longtemps été un vicariat apostolique, c'est-à-dire une organisation de la mission. C'était une mission des Oblats de Marie Immaculée auprès de des Premières Nations Cris. Alors, tous les cris de l'abbé James. Quand on pense à l'abbé James au Québec, on pense à l'abbé James du Québec, mais ça, c'est le versant est de l'abbé James. Il y a le versant ouest, qui est l'abbé James de l'Ontario. Alors, il y a toutes des petites communautés comme Moosonee, Moose Factory, Fort Albany, Attawapiskat, et jusqu'à Piwanuk, qui est plus au nord que l'abbé James, qui est le sud de la baie du Thon. Alors moi, je suis ici évêque depuis maintenant 2 ans et demi dans ce territoire de mission, une mission qui est en grande partie francophone. La majorité des gens avec qui je travaille, c'est francophone. Il y a une importante communauté anglophone et des gens de partout. Et il y a aussi des autochtones, donc de 2 nations, les Cris et aussi des Ojibwés.
Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, vous vous intéressez beaucoup à l'âge séculier, la sécularisation, c'est le thème d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on entend exactement quand on dit qu'on vit dans un âge séculier, qu'est-ce qu'on veut dire exactement?
C'est un thème très vaste, effectivement. Le titre « L'âge séculier », c'est le titre d'un important livre de M. Charles Taylor, qui est, à mon point de vue, le plus grand philosophe contemporain sur la question de la place de la religion dans le monde moderne. Et c'est une question large qui touche justement comment peut-on être croyant dans un monde qui n'est plus un univers religieux. Alors, Charles Taylor nous aide à comprendre les conditions de la foi dans un contexte de sécularité. Et ensuite, à partir de là, il nous permet à nous, et là c'est la réflexion qui nous appartient à nous, c'est comment comme chrétiens, on se situe dans ce monde-là. Alors peut-être que je pourrais le faire en deux temps, donc comprendre ce que Monsieur Taylor essaie de nous dire, et ensuite comment nous on peut l'intégrer dans notre vision et notre vie d'Église.
Exactement. Mais juste avant qu'on aborde ça, qu'est-ce qui vous a motivé à vous intéresser justement à cet ouvrage effectivement majeur de Charles Taylor, L'âge séculier?
Le livre m'a été recommandé. Je l'ai lu en 2011. La version anglaise est sortie en 2007, puis il y avait une traduction qui est sortie justement en 2011. Moi, je suis un missionnaire. Hein? Je fais partie d'une communauté missionnaire. Et depuis mon jeune âge, la grande question de ma vie, c'est comment être témoin de Jésus-Christ dans ce monde actuel. Y a-t-il moyen de faire une jonction, une connexion entre l'univers traditionnel de la foi et le monde d'aujourd'hui? Et cette question-là continue de m'habiter jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment l'enjeu principal de ma vie. C'est comment on peut travailler à permettre à deux univers de se rencontrer. En termes théologiques, on a appelé ça la question de l'inculturation. Donc, c'est-à-dire que l'inculturation, c'est que l'Évangile, la bonne nouvelle, elle entre dans une culture. Okay? Et si les croyants sont de culture française, disons, ou de culture chinoise, ou d'Afrique du Sud, la manière culturelle, la manière dont on vit cette fois-là va être colorée différemment. Je l'évoquais tout à l'heure, je travaille avec les Premières Nations dans le nord ici de l'Ontario. Ça signifie comment est-ce que y a-t-il une manière où on peut tenir, prendre en compte et assumer que les Premières Nations vont apporter quelque chose à l'Église avec leur manière de vivre l'Évangile dans leur culture, puis comment l'Évangile, dans l'autre sens, va transformer leur culture et leur vision. Charles Taylor nous donne donc un outil extraordinaire pour comprendre que le monde a changé. Le monde a changé, OK? Mais des fois, le monde change lentement et ça prend du temps avant qu'on s'en rende compte jusqu'à ce que quelqu'un de très brillant nous dise, les amis, le monde a changé. Alors, c'est ce que fait Charles Taylor. Il nous dit que nous vivons dans un monde séculier, OK? Alors, pour lui, il définit très clairement ce qu'il entend par séculier, OK? Puis la sécularité. Vous avez employé l'expression sécularisation tout à l'heure. Lui, c'est pas exactement dans ce sens-là qu'il l'emploie. Alors, il parle de sécularité comme un monde dans lequel les rapports entre l'Église et l'État sont distincts. Ça, c'est la première définition de la sécularité. C'est la séparation des sphères d'influence, le politique, le religieux, etc. Parfois, certains ont pensé que la sécularité, c'était un processus de laïcisation ou de sécularisation, la baisse des croyances, des pratiques religieuses, des vocations des gens qui s'engagent en Église. La sécularité ou sécularisation, plutôt dans ce cadre-là, était vue comme un processus où l'univers religieux est en train de se dissiper, de se disperser, de disparaître. Charles Taylor, depuis le début, lui-même est un catholique, c'est un philosophe catholique, et je pense qu'il a toujours eu à cœur de démontrer que même si on n'est plus dans une société et une culture religieuse, les croyants, qui eux sont, ont une dimension spirituelle et religieuse, peuvent le vivre dans un monde qui n'est plus un monde religieux. Alors, si ce monde n'est plus religieux, qu'est-ce que c'est maintenant ce monde séculier? Alors, c'est un monde où la foi n'est plus une évidence. Donc, ça veut dire que ceux qui sont croyants, c'est une option qu'ils ont fait. Cette option-là n'est plus considérée collectivement comme allant de soi. On ne peut plus tenir pour acquis des avantages, des privilèges issus de la chrétienté ou d'un modèle de société dans lequel l'Église était plus intégrée ou sinon même emboîtée avec les structures de pouvoir. La sécularité implique un monde où la foi est une option parmi d'autres. OK? Donc, ça implique dans la vision de Taylor que sécularité implique, un, la foi n'est plus obligatoire. Deux, elle n'est plus évidente. Troisièmement, elle est dans un univers pluraliste. OK? Il y a plusieurs options. Mais par contre, elle a encore la capacité d'être là. Ça, c'est un point qui est très important pour lui. Il est clair à ce sujet-là que les croyants ont quelque chose à dire, mais ça veut dire qu'il y a un repositionnement, j'en parlerai tout à l'heure, qu'on doit faire. Mais on a une contribution à amener dans la société actuelle, on a une richesse, on a un don, on a quelque chose à amener. Alors, le monde de la sécularité, tel que défini par Charles Taylor, il nous l'explique, mais pas comme dans une boîte avec une catégorie, là, il nous fait un long parcours historique qui commence il y a 500 ans jusqu'à aujourd'hui. L'amplitude, la connaissance de ce philosophe, elle est extraordinaire, et la capacité de synthèse et tout. Alors, on n'a pas besoin de lire tout ça. Son livre est 1300 pages. Si jamais ça vous intéresse, préparez-vous. C'est un livre costaud, mais ça vaut la peine. Okay. Grosso modo, on vit dans un monde qui serait un monde qui aurait un cadre immanent. C'est-à-dire que nos ancêtres avant, je vous donne un exemple tout simple, il y avait un coup de foudre sur la maison, les gens pouvaient avoir un réflexe religieux. Dieu est pas content, ou il s'est passé quelque chose, s'il y a eu une inondation, est-ce qu'on a fait quelque chose au bon Dieu? Donc, la mentalité avait un référent religieux spontané. Aujourd'hui, non. La foudre tombe sur la maison, on va pas penser que c'est Dieu qui nous envoie un coup de semence. Est-ce qu'il y a des petits ralents de ça des fois? Hein? On se rappelle, il y a 5 ans, lorsqu'il y a eu la pandémie, il y avait des gens qui avaient commencé à se poser la question, est-ce que la pandémie pouvait être une punition que Dieu envoyait à l'humanité ou des choses comme ça? C'est des restants de mentalité traditionnelle, très ancienne. Mais dans le monde moderne, de façon spontanée, on a plus un référent à des choses qui sont transcendantes. Donc, on parle plus, on est dans un monde immanent, c'est-à-dire un monde qui s'explique par lui-même. Si vos auditeurs pouvaient voir mes mains, là, on verrait que je suis très expressif pour essayer d'expliquer ça. C'est de la philosophie, OK. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que concrètement, on vit dans un monde qui n'est plus un monde religieux. Et si toi, t'es croyant, tu peux l'être, mais les gens, certains vont être indifférents, d'autres vont être curieux, certains peuvent être hostiles. C'est un monde varié dans lequel on est, OK. Ce que Taylor essaie de dire aussi aux croyants, c'est de sortir d'une posture de lamentation qui existait beaucoup dans l'Église, puis qui en reste encore un peu, des gens qui sont dans la nostalgie d'une époque d'avant, se lamenter sur la déchristianisation de la société, puis ça va donc bien mal. Taylor n'a pas une posture pessimiste ou lamentation. Il y a un regard neutre et je dirais, moi, positif sur le monde dans lequel on est. Moi, je souscris à cette vision-là. On est dans un monde qui n'est plus un monde religieux. Il y a des belles valeurs, il y a des grandes choses. Il y a aussi des enjeux qu'on doit questionner. Puis, moi, je pense que, comme croyant, moi, puis ceux qui sont de tradition croyante, on a quelque chose à apporter dans notre société. On a une contribution à faire. Donc, un monde qui n'est plus un monde religieux, un monde où on cherche à comprendre. Donc, la rationalité est très importante. Donc, les croyants, on va être appelés à être capables de rendre compte de notre foi, d'expliquer pourquoi on croit, etc. On vit dans un monde aussi où l'accent a été mis de plus en plus sur l'épanouissement. Alors, on veut être heureux, on veut un bonheur immédiat. Tandis que, a priori, en tout cas, pour beaucoup de gens, à une époque, le message de l'Église était un message de sacrifice, de souffrance, de privation, puis de jeûne, puis finalement de triste un peu, hein, sévère. L'austérité, hein, on voit, c'est pas des mots qui sont très populaires. Alors que le monde moderne, on a plutôt le goût d'avoir du fun, d'avoir du plaisir, être heureux,
être authentique. Il y a tout un chapitre de Charles Taylor sur être authentique, effectivement.
Exact. Alors, ce que lui explique, et moi je trouve qu'il le fait tellement bien, c'est que, oui, les croyants ont à redéfinir que le message chrétien n'est pas simplement un message de dépassement de notre condition humaine, c'est-à-dire, moi, je vais me dépasser, je vais me sacrifier, je vais vivre ma vie comme par devoir, mais je vais le vivre heureux, pleinement heureux, Puis il y a quelque chose qu'on est capable de dire, hein. Moi, j'aime avoir les sportifs, les de haut niveau, ou les artistes, ou les scientifiques, ou les gens dédiés à n'importe quelle cause, se sacrifient énormément. Mais en même temps, le bonheur est là. Alors, ça veut dire que même dans une société d'épanouissement, on est capable de comprendre que pour des grandes causes, ça vaut la peine de s'investir. Alors, Charles Taylor, en ce sens-là, il nous donne vraiment une compréhension que le monde actuel, en tout cas, cherche le bonheur, l'épanouissement immédiatement.
Avec Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, nous regardons cet âge séculier, beaucoup à la lumière de cet imposant ouvrage, celui de Charles Taylor, L'âge séculier. Monseigneur Tremblay, Charles Taylor affirme que ce qui attire les gens, parce qu'il l'ouvre effectivement, il fait prendre conscience qu'il y a des éléments qu'on peut vraiment tenir compte, c'est quelque chose de festif, de rassembleur. Et il va donner des exemples qui semblent opposés, mais qui sont peut-être éclairants. Il va nous donner, par exemple, comme exemple, le rassemblement de Thésée, les jeunes qui se rassemblent. Il va parler des journées mondiales de la jeunesse, qui sont très, très importants dans l'Église. Mais il va aussi parler que les gens qui vont dans un concert rock ou même dans une grande manifestation sportive peuvent vivre une espèce de sentiment de communauté ou de communion. En quoi ça peut nous interpeller au niveau pastoral, par exemple, ou de l'Église, de ce constat-là particulièrement? Parce qu'il y en a plusieurs qui le font, là, mais je mets en lumière celui-là.
Merci beaucoup. Tout à fait. Charles Taylor nous montre qu'il y a quelque chose en nous, une recherche de signification. Okay? Donc, il est de ceux qui reconnaissent que le monde actuel est un monde désenchanté. Alors, on n'est plus dans un monde où Dieu était partout, les démons, les anges, les divinités ou quoi que ce soit. On est dans un monde non religieux, donc un monde désenchanté. Mais il reste qu'il y a en nous comme une espèce de recherche d'intensité, de signification, et on va le chercher à travers différentes choses. Mais un des lieux où on le fait, spontanément, c'est dans les grandes fêtes, le côté festif, comme vous le soulignez, que ce soit une aréna, un sport, que ce soit un festival rock, que ce soit religieux ou pas, là, les humains, on a comme une sensibilité à quelque chose de plus grand que nous. L'autre manière, et il le développe davantage dans son dernier livre qui vient tout juste d'être publié il y a quelques mois, qui s'appelle « Cosmic Connections », dans ce livre-là, malheureusement pas encore traduit en français, il démontre que la poésie et les arts, mais là, il s'attarde plus spécifiquement sur la poésie, nous aident à développer ce qu'il appelle un langage subtil. C'est comme si les poètes, à travers l'évocation, à travers un langage artistique, à travers le mystère et la beauté, nous permettaient de goûter à quelque chose qui ressemble à de l'enchantement, du sens, de la profondeur, ce qu'on pourrait appeler aussi comme du mystère. Tout n'est pas dans un univers plat, rationnel, mais il y a une profondeur dans la vie. Alors, la deuxième partie de votre question nous amène sur nous, les chrétiens, comment on agit dans ce monde-là? Puis, c'est une excellente question. Moi, je pense que on doit se situer d'abord et avant tout de façon très réaliste dans le monde dans lequel on est. On doit comprendre qu'on n'est plus dans le monde de nos ancêtres et qu'on ne peut plus faire comme si être croyant était évident. Ça veut dire qu'on doit apprendre très, très, très rapidement que être croyant va nous demander une capacité de nous expliquer, en mots simples, l'importance du témoignage. Mais les chrétiens ont peut-être pas été habitués à ça. Pourquoi tu vas à messe? Pourquoi tu fais ça? Tu crois encore à Jésus? Mais qu'est-ce que ça t'apporte? Hein? Ça, c'est des questions très contemporaines. Qu'est-ce que ça te donne, dans le fond, là, d'être catholique? Mais ça, c'est des questions très importantes. Puis on est invité, tout le monde, à travailler pour y répondre nous-mêmes. Peut-être que nous aussi, on n'est pas en dehors du monde. Hein? Alors, nous aussi, le climat actuel de désenchantement a traversé l'Église aussi, les croyants aussi, et on est invité à renouveler nos engagements de fond. Qui est Dieu dans ma vie? Qui est Jésus? C'est quoi son message pour moi? Comment je peux l'intégrer puis le vivre? Et qu'est-ce que Dieu fait dans mon cœur, etc. Et moi, je pense que le contexte de sécularité va nous inviter tout le monde à un travail. Vous avez parlé tout à l'heure d'authenticité, mais un travail d'authenticité, c'est vraiment de connecter à des convictions profondes. ça va être de plus en plus important. Alors, du côté de l'Église, mettre en valeur l'humilité de notre démarche. On ne prétend pas avoir de monopole de vérité. On ne prétend pas avoir être les meilleurs que qui que ce soit d'autre. L'humilité, mais en même temps la conviction, puis l'audace de dire, moi j'y crois, je crois en Jésus, je crois en son message, j'embarque dans l'Église, je veux en faire partie, et je suis convaincu que ça peut avoir un impact positif, puis une contribution à notre société, tant au point de vue de la solidarité, l'engagement pour les pauvres, la transformation du monde, que la spiritualité, le silence, le sens aussi, la recherche intellectuelle. Moi, je suis fier de tout cet héritage-là, de tout ce bagage-là. Alors, je crois qu'on va avoir à réapprendre comme chrétien, on est de plus en plus dedans de toute façon, à le vivre de manière sereine, confiante, même si l'époque actuelle est une période à plusieurs égards très instable et pour beaucoup anxiogène. On va s'enraciner, on est appelé en tout cas à s'enraciner dans ce qui nous donne la confiance, de l'espérance, puis qui nous permet de vivre ça dans la persévérance. Mais on n'est pas tout seul, on va y arriver.
Monseigneur Tremblay, est-ce que justement ces espaces, est-ce qu'il y a des moments où il y a des processus ou des démarches qui vont justement aider les croyants non seulement à se poser ces questions-là, mais à cheminer même dans leur élément de réponse? On sait peut-être qu'en Europe, particulièrement à cause de toute l'histoire de l'Église et des Églises, les croyants ont peut-être eu plus rapidement à dire pourquoi ils croyaient en cette Église-là, etc. On peut le remarquer particulièrement chez des amis, si on a des amis européens. Très rapidement, ils ont dû se dire pourquoi ils étaient catholiques ou pourquoi ils adhéraient à une Église protestante ou pourquoi ils étaient anglicans. Et peut-être qu'au Québec particulièrement ou au Canada et en Ontario sans doute, peut-être que ça, c'était moins présent d'avoir à le dire très concrètement les raisons qui motivent la foi.
Je pense que c'est très juste. Et c'est peut-être lié au fait qu'on est une petite communauté francophone en dehors de l'Amérique, qui fait qu'on a moins d'espace pour une grande diversité. On n'est pas comme en France où on aime tellement les débats sur tous les enjeux. Il y a eu comme une certaine facilité à rester dans une unanimité, mais ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord. Ça peut être une unanimité de façade, hein. Il reste que moi, je pense que les questions peut-être qui ont été vécues plus vivement en France, entre autres, puis dans d'autres pays d'Europe, c'est des questions qui nous rejoignent aujourd'hui. Même aux États-Unis, qu'on disait une société plus religieuse, les questions actuellement émergent avec force. Ben c'est ça. Ça va nous demander de nous donner ensemble des espaces de formation, d'apprentissage bien concrets, des espaces de dialogue, de conversation. Moi, j'ai travaillé avec les jeunes pendant 25 ans, en pastoral avec les jeunes, puis des choses qu'on a toujours faites, c'est aller dans un café, prendre un verre, jaser, réfléchir sur le monde, discuter avec toutes sortes de croyances, et ça m'apparaît encore et encore comme le meilleur chemin. On ne va pas apprendre ça du premier coup. Faut qu'on soit très bon avec nous-mêmes, modeste, et aussi ouvert à des surprises. Parce qu'il y a des belles surprises qui nous attendent. Je trouve des fois qu'en milieu d'église actuellement, on est un petit peu trop habité par un découragement, hein, presque une dépression. Moi, je dis qu'il faudrait un synode de l'Église du Québec en Floride. Alors, on aurait besoin de soleil. Mais on l'a, le soleil. C'est le Christ, OK? Puis, donnons-lui la place. Retrouvons cette simplicité. Le pape François, dans Evangelii Gaudium, disait qu'on avait l'air comme des gens qui sont dans un carême sans Pâques. Hein? Ce serait-tu triste si on avait juste un carême sans Pâques? Donc, la joie doit peut en tout cas être quelque chose qui nous surprend, qu'on n'avait pas prévu. S'attendre à l'inattendu. Okay? Et on a des découvertes, des amis, de d'autres mondes comme nous qui sont en recherche. Alors, il y a des beaux chemins devant nous, je suis sûr de ça.
Charles Taylor parle des points de contact entre croyants, non-croyants, distants. Les croyants, il les appelle ceux qui croient sans appartenir, là, c'est-à-dire des gens qui se reconnaissent dans la foi chrétienne, mais qui sont pas nécessairement engagés dans une communauté, qui vont peut-être une fois ou deux à des événements, des célébrations, mais qui se tiennent assez loin. Alors, il parle des points de contact. Il nous reste quelques instants. Est-ce que vous pouvez nous en suggérer un ou deux que vous voyez en disant ça, c'est des points de contact où on peut se parler?
Oui. Les événements de la vie, hein? Alors que ce soit un décès, un mariage, des engagements, donc les moments de passage. Il y a des gens aussi qui ont des grands besoins actuellement au niveau de la pauvreté, de l'alimentation, les sans-abri, les immigrants, les réfugiés. Il y a des grandes, grandes questions sociales autour de nous, mais je pense qu'on n'a pas les moyens de faire des choses immenses, mais on a certainement les moyens de faire quelque chose. On n'est ni dans la toute-puissance, ni dans l'impuissance, mais on peut faire quelque chose. Alors, les points de contact, ça va être dans l'engagement, dans l'action. Des espaces de conversation aussi, moi je suis convaincu de ça. Il faut réapprendre, faut apprendre à se parler, réapprendre à se parler. Mais on est des êtres de dialogue, on va le faire.
Votre rêve pour l'avenir, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay?
Que comme croyant de l'Église chez nous, on redécouvre la joie de notre foi, la confiance qu'on n'est pas seul. Dieu ne nous a pas abandonnés, là. On n'est pas dans un monde perdu, là. On est dans un monde dans lequel Dieu est présent. Alors que mon rêve, c'est qu'on ouvre les yeux, qu'on découvre aussi Dieu dans des endroits qu'on n'avait jamais perçus jusqu'à présent. Et qu'on le fasse ensemble, puis qu'on retrouve, on revitalise, on renouvelle le feu de nos communautés pour participer au grand projet de Dieu qui est si extraordinaire et si grand.
Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, un grand merci de nous avoir parlé de cet âge séculier, mais surtout des pistes très concrètes pour toute personne qui voudrait justement que ces points de contact entre les différentes personnes, qu'elles soient croyantes, non-croyantes, peu importe comment elles se situent par rapport à la foi, à la religion, que ces points de contact puissent permettre justement un dialogue et peut-être des vivre ensemble ou des projets ensemble. Merci beaucoup.
Merci.
L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de l'émission. Merci à Yannick Caron pour Radio Galilée et Lysandre Duplé pour Radio VM. Merci de votre présence au micro Renaud Grégoire et je vous dis à bientôt.